Le droit et nous, dans la grande matinale avec Aloutal sur Africa numéro 1.
Bienvenue à tous, on va parler d'un sujet qui peut faire mal, c'est le divorce. Mode d'emploi, comment divorcer sans s'entretuer ? Je t'aime moi non plus, quand le couple ne va plus, il existe souvent des tensions fortes et même parfois des violences physiques pour se séparer. L'autorité parentale et le droit de garde, de visite, de même la pension alimentaire sont généralement la cause de ces tiraillements entre des personnes qui se disaient tous les matins « chérie, je t'aime » et qui se sont parfois condamnées à garder un contact malgré le divorce dans l'intérêt de leurs enfants. C'est très bien. Pour ne pas se laisser dans une guerre judiciaire inutile, il vaut mieux connaître ce que dit la loi sur les conséquences du divorce. Nous traitons ces questions aujourd'hui avant de revenir dans un autre numéro, le droit et nous, sur les causes légales du divorce. Aloutal, bonjour et bienvenue.
Bonjour Phil.
Alors, le divorce.
D'accord.
Mode d'emploi, comment divorcer sans s'entretuer? Vaste question.
Bonne question. Ouais. Vous savez, quand il y a un morceau de Zouk, je me rappelle, où la dame disait... Quand on a des enfants, il faut pas divorcer.
Ouais.
Quand on a des enfants, il faut conjuguer. J'espère que tu vous rappelez de ça, monsieur Phil.
Je me rappelle pas du tout, mais.
Vous rappelez pas de ça.
Non.
Moi, j'aurais dit plutôt quand ça ne va pas, il faut divorcer.
D'accord.
Il faut divorcer sans s'entretuer. Et ça, c'est l'objet en musique de notre propos. En fait, on en rigole, mais parfois, c'est des situations très dramatiques.
Très dramatiques, ouais.
Moi, je parle en connaissance de cause, pas de mon histoire personnelle, mais parce que j'ai conseillé pas mal de gens qui sont confrontés à ces situations. Comme c'est des situations humaines, parfois, on pense même que c'est nous qui sommes concernés. Au moment, il y a quelqu'un qui était venu désemparé, qui a fait toute sa vie ici en France, qui a amené une personne ici en France, une femme en l'occurrence. Ce n'est pas forcément des femmes, parfois, ça peut être la victime, peut être une femme comme un homme. En l'occurrence, la victime était un homme et qui était en larmes carrément. Un monsieur vraiment qui a fait sa vie, qui était à la fleur de l'âge et qui pleurait parce qu'il y avait des conséquences délétères d'un divorce qui était en jeu.
Ouais.
Et que sa femme a été encouragée dans ce chemin par une assistante sociale et des associations ultra-féministes.
Ouais.
On voulait vraiment détruire cette personne alors qu'il y avait tout fait pour que cette femme puisse venir ici dans le cadre d'un regroupement familial dans les normes et aussi qui s'est bagarrée, qui a lutté contre tous les aléas de la vie professionnelle pour instaurer ici une famille. Et finalement, il en est arrivé là et finalement... Les conséquences de ce projet de divorce ont été tellement dures pour cette personne. Je vais en parler. Et d'ailleurs, je pense qu'on va demander aux auditeurs...
S'ils
ont des témoignages qui les concernent. Bah. Même vous pouvez dire sous alias ou bien sous quelqu'un d'autre. Parce que l'intérêt, c'est de partir de tous ces faits pour montrer quelle est la dangerosité de ces procédures qui parfois peuvent ne pas avoir lieu. On encourage des gens dans ce schéma-là. Parfois, ce sont des assistantes, des assistants, parfois des associations, parfois des avocats. Alors que c'est une question de vie humaine et en jeu. Et des enfants parfois qui sont en jeu. Il n'y a pas que l'aspect patrimonial. Enfin, l'aspect patrimonial fait de sorte qu'on pense pension alimentaire, on pense à le droit de garde, droit de visite, mais plutôt aux conséquences de ces droits de garde. Parce que quand on garde les enfants, effectivement, on peut imposer via le juge aux affaires familiales à l'autre conjoint de donner une somme d'argent mensuellement. Et parfois, s'il y a beaucoup d'enfants, cette personne peut se retrouver dans une pauvreté systémique qui a été créée par cette décision du juge aux affaires familiales. Et donc, si on peut l'éviter... Si on peut divorcer, se séparer sans s'entretuer, je pense que c'est tant mieux. Et pour y arriver, il y a des notions de droit, il y a des règles de droit. Et on va en parler aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler du divorce lui-même. Quelles sont les causes péremptoires de divorce? On va parler de ça. Mais le plus difficile maintenant, ce n'est pas de divorcer, c'est de subir les conséquences du divorce et de sortir de ces conséquences du divorce sans y laisser des plumes.
Et voilà. Donc, si vous avez des témoignages, donc, n'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 0155 07 58 00. Venez témoigner comment divorcer sans s'entretuer. C'est donc le sujet du jour. Vous n'êtes pas obligé de donner votre véritable identité.
Très bien. Et moi, je vais partir de ces faits, de témoignages, avant de partir du droit. Parce qu'en droit, pour mieux appréhender les règles de droit, il faut bien connaître les faits. Et ces faits, ce sont des hypothèses, mais c'est du vrai. C'est un cas de figure d'un auditeur d'ailleurs d'Africa numéro 1, qu'on ne va pas dire de nom du tout, mais on va juste une personne lambda, et d'une autre personne qui m'a suivi lors d'une conférence et qui était venue à prévenir pour des questions de nationalité, mais qui m'a consulté pour des questions de divorce et de ses conséquences. L'une de ces personnes est un homme, l'autre est une femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de genre à ce niveau-là. Le bourreau peut être un homme comme une femme, la victime peut être un homme comme une femme. Dans le premier cas de figure, cette personne est venue ici en France en passant par l'Italie. Cette personne a tout fait pour avoir un visa touristique. En Italie, le monsieur a galéré, comme d'habitude, pour avoir un premier titre de séjour. Avant cela, il vendait la sauvette, comme tout le monde. Mmh. À Naples, en vendant des biens contrefaits, ouais. Des sacs contrefaits, Louis Vuitton et autres.
Des contrefaçons.
Voilà, des contrefaçons. Il a eu à être condamné pour cet état de fait, pour dire qu'il était dans une galère. Il vivait dans un logement de 12 mètres carrés, avec plus de 3 personnes dedans. Et parfois, accessoirement, des gens qui passent. Des
12 mètres carrés, 3 personnes à l'intérieur.
Et 3 mètres carrés, c'est 3 personnes, c'est de manière régulière. Parfois, ouais. Il me dit qu'on peut aller jusqu'au double. Quelqu'un qui dort sous le lit, tout ça. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour montrer la galère. Ce qu'a enduré cette personne avant d'en arriver à son assise professionnelle en France. Hum. Après, cette personne, pour des raisons, effectivement, donc de convenance, est partie au pays quand il a eu un titre de séjour et il a épousé une femme là-bas. Hum. Il est revenu ici. Cette personne s'est rendue compte qu'en Italie, il n'y avait pas de possibilité de travail par rapport à son orientation professionnelle. Il était chauffeur-livreur. Il est venu ici, il a fait une formation de chauffeur routier. Il a eu un bon emploi. Avec ce bon emploi, il a fait le regroupement familial. D'abord en passant par l'Italie, faire venir sa femme. Et de l'Italie, il vient ici. Mais comme le titre de séjour italien ne donne pas droit automatiquement à un titre de séjour français, il faut une procédure. Cette personne n'était pas au courant. Elle a commencé à travailler. Et s'est retrouvé ici dans la clandestinité par rapport à son travail. Mmh. Parce qu'on l'a étudié plusieurs fois, le titre de séjour italien ou bien le titre de séjour délivré à un étranger par un pays de l'Union européenne ne donne pas automatiquement droit à un droit d'établissement dans un autre pays de l'Union européenne. Cette personne l'ignorait et s'est retrouvé donc dans une clandestinité alors même qu'il avait un bon boulot avec sa femme. Il endurait tous les matins une pente de 10 km à vélo pour pouvoir travailler depuis Cergy vers le haut. Mmh. Et c'était vraiment difficile. Tout très ça, difficile. Il le faisait parce qu'il avait... la conscience qu'il devait se comporter en bon père de famille, comme on dit en droit, vigilant, diligent et prudent pour bien entretenir sa famille et surtout sa femme. Il l'a fait, finalement il a été régularisé. Une fois régularisé, la femme a pu bénéficier de l'effet collectif de cette régularisation avec un regroupement familial sur place. Mmh. Il a payé de l'argent pour que sa femme fasse une formation. Sa femme a commencé à travailler, il a commencé à travailler. Ouais. Il a acheté une voiture. En tant que chauffeur routier, mm-hmm. Il fait des distances, il a beaucoup de primes, il commence à gagner beaucoup d'argent.
Il a acheté une voiture à sa femme.
Il a d'abord acheté une voiture professionnelle pour pouvoir aller du point de A, la maison, vers le point où il doit prendre son camion pour aller travailler.
D'accord.
Et donc après, sa femme a fait une formation, on commence à travailler. En l'occurrence, le monsieur gagnait 2500 euros, la femme gagnait 1500 euros. Pendant des années de vie commune, la femme n'a pas dépensé un centime pour prendre en charge quelque chose, une dépense de la famille. Mm. Or, le code civil le dit très bien. Chaque membre du couple, chaque époux est tenu de participer aux dépenses conjugales.
C'est plutôt culturel, hein, des fois. En tant qu'homme, on veut prendre toutes ses responsabilités.
Merci Phil.
Tout simplement.
Et surtout culturel, un élément important, d'autant plus que lui, de sa culture, mm-hmm. Il incombe à l'homme de prendre toutes les charges
exactement.
Du domicile. Par contre, en contrepartie...
Nous avons été éduqués ainsi.
Ainsi. Et même mieux encore. Non seulement c'est la coutume, mais parfois la loi vient consacrer la coutume. Mm. Je donne un exemple, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, où des codes de la famille disent carrément l'homme est le chef de la famille. Il y a des associations féministes qui disent « Mais pourquoi cette discrimination ?» Alors que c'est la contrepartie du fait que l'homme doit prendre en charge toutes les dépenses de la famille.
Exact.
Et quand on vient ici, on n'est plus dans le même schéma. Néanmoins, les gens continuent à penser qu'ils doivent le faire. Et lui, il l'a fait naturellement. Mm-hmm. En certains moments, il demande juste à la personne d'essayer de participer de temps en temps, ne serait-ce que pour acheter une baguette. Et ça a commencé à créer une tension familiale.
Ouais.
Immédiatement, rendez-vous assistante sociale.
Ah là là.
Et rendez-vous la famille qui lui dit « Ouais, tu es venu en France comme lui pour t'enrichir, pour faire de l'argent. S'il ne peut pas t'entretenir, tu l'abandonnes. D'autant plus que tout le monde sait qu'en France, si on divorce, c'est la femme qui garde le domicile. »
Voilà, influencé.
Comprenez comment je suis en train de faire une induction pour venir à notre sujet. Mm. C'est que je suis en train de dire, je suis persuadé que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont entendu des cas similaires ou bien qui l'ont vécu eux-mêmes. Et il ne s'agit pas de prendre la partie d'une partie. Non, il s'agit de dire exactement qu'il doit y avoir une équité, un équilibre dans l'union conjugale. C'est ce que veut la loi, surtout ici en France et maintenant de plus en plus dans beaucoup de systèmes juridiques de droit civil. C'est ce qu'il faut. L'homme n'est plus père de famille, d'accord, mais tout le monde doit participer aux dépenses familiales. Et cette personne, finalement, a eu des tensions au niveau conjugal et jusqu'à ce que la femme ait provoqué un semblant de violence conjugale en se cognant contre le mur et en appelant les secours, en appelant les policiers pour dire que voilà, je suis victime de violence conjugale. De là a commencé une procédure de divorce. Mm-hmm. Maintenant, on va y revenir sur qu'est-ce que vous pouvez invoquer comme procédure de divorce pour sortir de ce mariage-là si ça ne va plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est les conséquences de ce divorce. Immédiatement après, la personne, la femme en l'occurrence, prend une avocate, mm-hmm. une assistante sociale, une association de féministes qui commence à encombrer carrément le lien conjugal,
incroyable.
En incitant automatiquement la femme à divorcer au tort exclusif de l'homme. Et en évoquant certainement des éléments de droit sur lesquels on va revenir, et surtout en demandant à ce que l'autorité parentale lui soit accordée de manière exclusive, en demandant à ce que le parent n'ait pas de droit de visite, ce que le parent n'ait pas de droit de garde, parce que à partir du moment où le domicile conjugal va être attribué à la femme, le parent sera plus ou moins SDF, n'aura plus.
Exact.
Et d'autant plus qu'elle a invoqué dans son mémoire, qui a été fait par une avocate, que le parent est un chauffeur routier. Donc, il n'est pas là. Ça veut dire qu'il est absent du domicile conjugal.
Exact.
Par nature, quand on est chauffeur routier, on peut avoir des déplacements sur 3-4 jours, parfois même plus.
Ouais.
Mais
à travers l'Europe.
Parce qu'il le fait, lui, pour entretenir la famille. C'est parce qu'il est chauffeur routier qu'il a pu avoir cet argent-là pour prendre toutes les dépenses de la maison, sans que l'autre ne participe à un centime d'euro. Malheureusement, ils ont invoqué cet état de fait pour dire que voilà, il est chauffeur routier. D'autant plus qu'il n'aura pas de domicile parce que le domicile sera à moi. Donc je ne veux même pas qu'il ait de droit de garde. Droit de visite,
incroyable.
Voilà, une semaine sur deux. Droit de visite et peut-être même dans une ligne neutre parce que ce monsieur-là, comme il a été violent, je ne veux pas voir cette personne-là. Donc cette personne est venue me voir et moi en général, je ne m'occupe pas de ces questions personnelles parce que dans certaines matières du droit, on peut avoir tendance à être subjectif, à défendre la partie qui est en face de nous si on n'est pas honnête. Mais quand on voit des cas de malhonnêteté comme ça, une personne qu'on a accompagnée pour d'autres cas de figure, en l'occurrence la naturalisation ou d'autres personnes pour d'autres questions de droit civil de Beau, on peut être tenté à jouer pour le rééquilibrage du rapport conjugal et le rééquilibrage des intérêts familiaux, des intérêts plutôt patrimoniaux. Parfois, le nœud de la guerre, c'est l'argent. En l'occurrence, ils ont demandé, le monsieur qui gagnait 2500 euros, plus à peu près 900 euros de pension alimentaire, à peu près 300 euros par enfant. 300 euros de pension alimentaire pour la femme, ça fait 1200 euros. Et la femme avait pris une voiture pour son propre compte, une voiture de luxe, de confort, que le mari était parti chercher. Et donc, pour son propre compte, ce n'est pas pour le foyer.
À crédit.
À crédit. Elle a demandé à ce que le crédit soit pris en charge par les deux. Ça veut dire moitié-moitié. Donc, finalement, si on défalquait toutes ces sommes-là du salaire de cette personne, pendant 5 ans, ce monsieur de 2500 euros va se retrouver avec moins de 700 euros de salaire.
Ouais.
Ça veut dire qu'il ne sera même pas bancable pour avoir un propre logement. Il risque d'être dans la précarité au logement pendant longtemps.
Et ça va créer des très fortes tensions.
Ça va créer de très fortes tensions et il s'est avéré que cette personne était de bonne foi. Au contraire, c'est la femme elle-même qui avait fait l'objet de procédures judiciaires pour violence. Ce monsieur ne voulait même pas utiliser cette procédure contre la femme pour l'épargner parce que c'est la mère de ses enfants. Et finalement, j'ai aidé cette personne en faisant un compte-mémoire et pour dire que quand on est dans un couple, chaque personne est tenue de participer. On a fait le bilan pour montrer que le mari a participé exclusivement à toutes les dépenses qu'il a pris en charge. La femme devant le juge n'a pas pu invoquer ou soumettre au juge une seule dépense faite officiellement.
Aucune dépense.
Ni téléphone de la maison, ni téléphone des enfants, ni la voiture pour la maison, ni le loyer, ni l'électricité, ni rien du tout, ni la cantine des enfants, ni l'assurance habitation, ni l'assurance des enfants. Finalement, le juge s'est rendu compte que « Madame, vous dites que vous participez, mais qu'est-ce que vous faites ?» L'avocate, là, était perdue et commençait à agresser même cette personne parce que quand un avocat est perdu, d'autant plus désemparé par quelqu'un qui n'a pas fait du droit, qui a juste été coaché par un Aliutal, ils étaient désemparés. Du coup, dès le premier coup, ils ont enlevé « Bon, d'accord, finalement, pour la voiture, on va prendre ça en charge. » J'ai dit « Non, c'est de l'escroquerie. »
Exact.
Parce que c'est de l'abus de confiance et de l'escroquerie.
Abus de confiance, c'est le mot.
Très bien, parce que quand on prend un bien pour son propre compte et on essaie de l'affecter aux dépenses conjugales, il y a du faux. Il y a du faux, de l'usage de faux. Ils ont eu peur de l'aspect pénal. Et quand il y a du pénal, le juge civil va se dessaisir pour que le tribunal pénal, le juge pénal, décide d'abord. Et eux, ils étaient pressés de dissoudre le mariage pour que la femme puisse avoir sa liberté de refaire sa vie. Et sous cet angle-là, le pénal tenant le civil en l'état, on avait le choix de l'embêter. Avec cette menace, ils ont enlevé cette possibilité-là. Aussi, pareil, ils ont demandé aussi que finalement, ils étaient d'accord pour que la personne au moins ait des droits de visite et que s'il y a une personne chez quelqu'un, chez Phil, le monsieur peut recevoir ses enfants, ils étaient plus ou moins d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas se laisser abattre par ces procédures, même si vous n'avez pas un avocat en face de vous. Il y a une certaine logique et l'honnêteté. Quand on est honnête et qu'on est logique et qu'on connaît les règles générales qui régissent l'union matrimoniale et surtout la séparation, on doit se défendre pour qu'il y ait un équilibre. L'objectif, ce n'est pas de faire mal à l'autre, mais de ne pas se faire mal, de ne pas accepter qu'on nous fasse mal. L'autre cas de figure, avant de venir sur le droit, c'est une femme. Donc le fait c'est très important, c'est une femme qui m'a appelé il n'y a même pas 3 jours, aussi pareil, même cas de figure, venue par l'Italie par un homme africain qui l'a fait venir. Avec, vous savez, quand les hommes veulent séduire, ils sont plus gentils que Père Noël. Et cette femme a cru en tout ça, avec surtout l'effet de la famille, a accepté d'abandonner un boulot, un bon boulot qu'elle avait dans son pays, donc en Italie, et qui est venue ici. Une fois venue ici, l'homme n'a pas caché à cette femme que, voilà, moi j'ai une concubine. Donc, il faut que tu te prépares à ça. Ici, c'est en France, c'est pas comme au pays. Parce que des Africains, parfois même de culture musulmane, dans ces cultures, vous savez qu'il y a une certaine restriction au regard de certains actes en dehors du lien matrimonial. L'adultère ou la fornication, c'est hyper prohibé. Et tant bien mal que l'homme l'a assumé. Cette femme, elle tombait des nues. Je dis, attends, moi je suis marié à vous civilement. Le monsieur lui dit, mais vous savez qu'en France, l'adultère n'est plus pénalement réprimé. Vous savez, les gens, comment ils savent? Et que mieux encore, l'adultère, ce qu'il n'a pas dit, n'est plus une cause péremptoire de divorce. On ne peut pas solliciter un divorce parce qu'il y a adultère. Avant, c'était le cas. Et que donc cet homme, non seulement a fait ça, mais a promis à une autre personne qui était sa copine de faire une procréation médicalement assistée. Voilà. Avec une fécondation in vitro. Et donc cette femme était désemparée et veut divorcer. On lui a dit, vous sortez chez moi si vous ne voulez pas. Ça, ce n'est pas possible légalement au niveau du droit. Et maintenant, au niveau patrimonial, j'ai assuré à cette fille que même s'il y a un divorce, à partir du moment où il y a un lien matrimonial civil, il y a des conséquences. Ce ne sera pas à cet ordre, parce qu'il peut y avoir abandon de domicile. Même si on ne peut pas reprocher à un conjoint qui abandonne sa femme, qui tourne à gauche, à droite et qui l'assume, on ne peut pas divorcer du fait que c'est un adultère, parce que c'est une union en dehors du mariage qui est valablement légalisé ici en France, parce qu'en France, on ne peut pas être deux fois marié. Il y a le délit de bigamie. Donc les gens, ce qu'ils font, il y a un mariage officiel et finalement, il y a des concubines à gauche et à droite. Ils pensent qu'ils ont contourné la loi. Mais non, cet état de fait, si ça vous arrive, vous pouvez l'utiliser pour abandon de domicile et demander le divorce au tort exclusif de l'autre conjoint qui l'a fait, que ce soit l'homme ou à la femme. Les conséquences, c'est que par rapport au droit de garde, s'il y a des enfants, par rapport à l'exercice de l'autorité parentale, effectivement, vous avez aussi la possibilité. Par rapport aussi à la pension alimentaire, vous serez en force. Donc voilà deux cas de figure qui me semble ne pas être isolé. Je suis persuadé, déjà, de mon expérience, il y a plus d'une vingtaine de cas dans les deux années qui précèdent que j'ai vécu, et finalement, je me dis que c'est redondant. C'est redondant et c'est délétère, c'est dur. Il faut que les gens se rendent compte que certaines assistantes sociales, certains avocats ou avocates, certaines associations de féministes ne sont pas là pour préserver leur union. L'union, c'est le plus important. Si on peut préserver cette union, il faudra que vous-même, vous essayez de faire une négociation pour homologuer même les conséquences de vos divorces par le juge aux affaires familiales. Ce que je conseille, si on peut, de par les faits, trouver une solution. Sinon, il faut connaître les normes du droit, sur quoi on va revenir.
Voilà, merci Aliutal pour cette présentation au divorce mode d'emploi. Comment divorcer sans s'entretuer, c'est donc notre sujet du jour. Et si vous avez des témoignages, c'est maintenant. Vous pouvez composer hein, le 0155 0758 00. Appelez-nous en direct si vous avez des questions. Hein. Nous avons déjà pas mal d'appels en attente, hein, notamment Camara et Monsieur Diaby. Nous allons marquer une pause et on revient juste après.
Après, je reviens sur le droit maintenant. Après, si les gens peuvent parler, s'ils parlent, tu peux couper quand tu veux après, d'accord?
Le droit est nous, dans la grande matinale avec Aliutal, sur Africa numéro 1.
Bienvenue si vous arrivez à l'instant, deuxième partie hein, du droit est nous. On parle de divorce, mode d'emploi, hein, comment divorcer sans s'entretuer, je t'aime moi non plus. Quand le couple ne va plus, bah, il existe souvent des tensions et même parfois des violences physiques hein, pour se séparer. L'autorité parentale et le droit de garde de visite. De même, la pension alimentaire sont généralement la cause hein, de ces tiraillements entre des personnes qui se disaient tous les matins « chérie, je t'aime, je t'adore » et qui sont parfois condamnées à garder hein, un contact malgré le divorce sans, pour l'intérêt, dans l'intérêt de leurs enfants, bien évidemment. Pour ne pas se lancer dans une guerre judiciaire inutile, il vaut mieux connaître ce que dit la loi sur les conséquences du divorce. Nous traitons ces questions aujourd'hui. Aujourd'hui, avant de revenir dans un autre numéro du droit et de nous sur les causes légales du divorce. Première question à Aliutal avant de prendre nos auditeurs qui sont déjà très nombreux au 0155 0758 00. Que dit la loi sur l'autorité parentale, le droit de garde et de visite?
Alors, ce que dit la loi, ce qui est bien à retenir principalement, on a évoqué des faits pour vous permettre de mieux appréhender quel est l'impact de la loi sur les faits. On a donné deux cas de figure. Certainement, les auditeurs vont nous en donner d'autres cas de figure, d'autres témoignages. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'autorité parentale, dans le cadre d'un couple divorcé ou séparé, il n'y a pas de différence, est exercé en commun par les deux parents. Il n'y a pas un parent qui a la latitude, le droit d'exercer l'autorité parentale comme dans d'autres systèmes juridiques, où c'est l'homme ou bien parfois c'est la femme. Mmh. Aussi, tenir compte que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Le fait que vous soyez séparés, même s'il y a un parent qui garde l'enfant, il ne faut pas confondre le droit de garde à l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est l'attitude de décider, de prendre les décisions importantes sur les enfants. Mmh. Ils ne sont pas encore majeurs, ils ne sont pas encore responsables de leur vie. Cette autorité sur leur vie appartient aux parents qui l'exercent concomitamment, de concert ou séparément. Donc ça, c'est très important à savoir. Ne pas faire l'amalgame entre droit de garde et droit de visite. Il y a des femmes parfois qui pensent que comme les enfants sont avec elles, c'est elles qui ont le droit de décider exclusivement de l'intérêt des enfants.
Surtout, ouais.
Et il y a certaines décisions, quand vous les prenez, ça peut se retourner contre vous. Ça peut engager votre responsabilité délictuelle, quasi-délictuelle ou même pénale. Aussi, l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ne peut pas être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Comme par exemple un parent qui est indigne, un parent qui parfois tout le temps picole et donc a des comportements violents. Là, on peut le demander devant le juge aux affaires familiales.
Ouais.
Et dans l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre qui est désigné à cet effet. Ça veut dire que parfois, les parents ne s'entendent pas. Je suis marié à X, on est séparés, je dois exercer l'autorité parentale, la personne ne veut pas me voir, n'a pas du tout envie de me voir, ouais. Tellement que le divorce s'est mal passé.
Ouais.
C'est possible. Dans ce cas de figure, il ne faut pas empêcher à l'autre parent de voir son enfant ou ses enfants.
Mm-hmm.
Il faut demander au juge aux affaires familiales de désigner un lieu neutre. Ça peut être vers le commissariat, vous passez à 16h, vous laissez l'enfant à 16h, le monsieur, parfois même au parc, il risque de se croiser. Il y a des gens qui ne veulent même plus se voir, ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des temps, ça peut arriver. Hein. Il y a tellement de la haine. Parfois, on dit l'amour peut précéder la haine. Ouais. L'amour aussi parfois succède à la haine. Et quand ça vous arrive, mieux vaut trouver cette solution-là. On peut aussi, ça peut être une association qui va servir d'intermédiation. Vous déposez l'enfant à 15h, l'autre vient à 17h. Vous n'êtes pas obligé de vous croiser. C'est mieux que de faire des rétentions parce que les rétentions peuvent se retourner contre vous.
Mmh.
De même, lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger ou un risque de conflit entre les parents, le juge peut désigner aussi pareil un espace neutre. Donc, à la fois pour le droit de garde ou bien la remise, le fait juste de remettre l'enfant. Dans les deux cas de figure, vous pouvez compter sur un espace neutre que vous pouvez solliciter devant le juge aux affaires familiales.
Voilà, nous allons partir à présent au téléphone. On va commencer avec Babou. Ma situation est semblable à celle que vous racontez. Hein. Nous avons eu des enfants et après, elle a décidé de se séparer. Elle a commencé les démarches et elle est partie avec les enfants. Est-ce là, Babou ? Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Donc vous écoutez.
Oui, c'est à peu près ça la situation.
Mm-hmm.
Donc bon, au bout de... Ça fait 3 ans là qu'elle est partie avec mes enfants en Martinique. Moi, quand elle était là déjà, c'était très difficile par rapport à la garde de mes enfants ou pour voir mes enfants, on ne s'entendait pas bien.
Mm-hmm.
Donc même là, actuellement, ce que vous venez de dire, ça m'a intéressé, c'est-à-dire l'avoir dans un lieu neutre pour récupérer mes enfants si elle revient ici.
Mm-hmm.
Mais du coup, si, au niveau des démarches, là, je ne sais plus trop quoi faire. Là, ça fait 3 ans qu'elle est partie. Bon, chaque année, je fais des démarches au niveau du tribunal. Et l'année dernière j'ai obtenu la garde, mais comme elle est toujours en Martinique, ça bloquait, c'est-à-dire elle a fait appel, et là cette année j'attends une décision au niveau du tribunal de Versailles. Là c'est la décision va être prise entre avocat et le juge par rapport à ça.
D'accord. Et donc est-ce que vous êtes divorcé? Le divorce a été décidé ou pas encore?
C'est la séparation.
Vous êtes séparé de fait, mais vous n'êtes pas encore divorcé officiellement, hein?
Non, c'est-à-dire, on n'était pas vraiment mariés.
Vous n'étiez pas mariés, d'accord.
Voilà, pas officiellement, mais on va dire humainement et spirituellement.
Très bien, d'accord. Très bien, voilà. Je comprends bien. Donc, il n'y avait pas un mariage civil, mais vous avez une union et qu'il y a une séparation. La personne a amené les enfants. Et vous avez une décision.
C'est-à-dire, moi, elle est partie avec mes enfants.
Elle a décidé de partir.
Elle est partie avec mes enfants, elle est partie, donc elle a fait des démarches au niveau de la station, j'ai reçu une convocation au tribunal, et ça, du coup, la séparation a été faite vraiment au tribunal.
En fait, la séparation a été faite, mais vous n'étiez pas marié, je veux dire. Donc ça veut dire qu'il n'y a, a pas eu de divorce.
Il n'y a pas eu de divorce
en mariage, mais quand même, ça a été constaté que vous êtes séparés de fait. D'accord. Voilà. Mais ce que je veux savoir, est-ce que vous avez eu une décision, vous allouant, vous attribuant la garde?
Oui,
c'est,
vous avez dit.
C'est une décision ou bien c'est juste que vous avez une décision?
Oui, il y a une décision. Mais elle a fait, elle a fait appel. Et là, ça fait un an que je suis sur cette procédure d'appel. Du coup, j'avais pris un avocat. Mmh. Et là, il y a une décision qui devait être prise bientôt, je pense. Ça devrait pas tarder par rapport à ça.
D'accord.
Ça a été entre avocat et le juge.
Très bien. Est-ce que vous, avec votre avocat, vous avez demandé une mesure exécutoire de la décision? Ça veut dire que la décision soit applicable en attendant, pour l'intérêt des enfants, le juge peut le décider, en attendant donc la mesure au niveau de l'appel. Ça, vous n'avez pas demandé cela?
Si ce soit exécutif, si.
D'accord. Donc ça, c'est un bon élément aussi. Donc, au fait, dans ces cas de figure, vous savez ce qu'elle a fait, c'est très grave, parce que même à supposer que vous n'ayez pas cette décision, comme je viens de le dire, les deux parents ont le droit sur l'autorité parentale, sauf si une décision vous l'empêche. Ça veut dire par indignité, ce n'est pas le cas du tout. Vous n'avez pas frappé d'enfant, vous n'avez pas été condamné pour des peines infamantes ni dégradantes. Ça veut dire que vous êtes de bonne vie et mœurs.
Ouais.
Dans ce cas de figure, même s'il n'y avait pas cette décision, elle n'a pas le droit de vous éloigner de facto de ces enfants-là. Même si elle dit que moi je change de lieu de vie pour l'intérêt des enfants et leur père. Ici, elle peut le décider. C'est à elle de souffrir de la séparation, mais de ne pas vous faire souffrir de la séparation. Quand je dis souffrance, c'est par rapport à votre droit naturel d'être en contact permanent avec vos enfants. Vous comprenez? C'est une souffrance, au fait. C'est une souffrance indicible, mais c'est une vraie souffrance. Vous comprenez? Donc, elle vous fait ça. Donc, elle engage sa responsabilité à la fois au niveau civil qu'au niveau pénal, comme je le disais. Parce qu'au niveau civil, elle vous cause un tort. Comme le dit l'article 1382, maintenant l'article 1240, vous pouvez poursuivre cette personne à côté en réparation de ses préjudices pour des demandes d'intérêt. Pour l'embêter, parce que vous pouvez, je vous dis, pour l'embêter, c'est de l'argent. Votre objectif, c'est pas de gagner de l'argent. Mais les gens, quand ils savent que maintenant, il y a le patrimoine qui est en jeu, ça peut les amener à être réglo. Ça, c'est de 1. Au niveau pénal, vous pouvez poursuivre cette personne. Ça n'a rien à voir avec la procédure qui est pendante devant les juridictions. À côté, vous pouvez enclencher une procédure pénale pour enlèvement d'enfants.
Ouais.
Vous savez, c'est un enlèvement. Les gens oublient.
Je pensais à ça, mais je me suis dit...
Oui, je comprends ce que vous allez
dire. Pour l'amour des enfants, on n'ira pas jusque-là.
C'est ça le problème, je comprends bien, mon ami. Parce que vous savez bien, j'avais quelqu'un, je l'ai conseillé, il me dit, oui, mais c'est la maman de mes enfants quand même. Et vous savez, c'est très bien ainsi, de penser ainsi. Mais en certains moments, les gens sont conscients qu'effectivement, la personne n'ira pas jusqu'au bout. Donc finalement, vous ne pouvez pas utiliser les moyens du droit. S'il y avait une procédure, ça peut être même un rappel à la loi, le procureur pour lui faire un rappel à la loi. Madame, il faut restituer les enfants ou vous mettre dans un cadre où leur père pourra bénéficier de son droit naturel, légal et légitime, de les voir, d'avoir la garde et d'avoir un droit de visite. D'autant plus que vous, c'est vous qui avez la garde. Donc à ce niveau-là, vous pouvez demander ça. Donc c'est à vous de voir. Donc au niveau pénal ou au niveau civil, c'est là où vous pouvez agir en ce moment pour faire bouger cette personne dans le sens d'un rapport équilibré. Moi, je ne suis pas en train de vous conseiller d'avoir le dessus. Ce n'est pas ce que vous voulez non plus.
Bien sûr, bien
vous,
bien
voulez
bien
un rapport équilibré. En plus, vous avez souri, j'ai compris à travers votre sourire que...
C'est pas pour moi, c'est pour eux. Il faut qu'il y ait un équilibre, sinon ils vont pas être bien.
Très bien, voilà. Moi, c'est ça que je veux entendre parce que c'est l'intérêt supérieur des enfants qui prime. C'est ce que dit le Code civil et ce que dit même le droit international à travers la Convention internationale des Nations Unies qui est dans le corpus juridique français, ça veut dire qu'il fait partie du droit français que vous pouvez invoquer directement. Parfois, certaines dispositions, vous ne pouvez pas les invoquer. Il faut que ce soit transposé dans le droit interne. En l'occurrence, il y a l'invocabilité directe de cette convention qui fait partie du droit positif français. Et cette convention, dans son article 3-1, dit nettement que dans toute décision concernant un enfant, que ce soit le fait des associations, des organismes comme la CAF, que ce soit le fait des juridictions de l'administration, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer. Sur cette base, vous pouvez invoquer cela pour inciter les autorités ici à agir. Parce que le fait que vous n'avez pas une procédure rapide, vous pouvez invoquer un dysfonctionnement administratif. Celui qui vous cause un tort, c'est l'État. Parce qu'il y a l'intérêt d'un enfant qui est en jeu et il y a une procédure qui est pendante depuis tout ce temps-là. Vous pouvez même attaquer l'État pour dysfonctionnement. Comme ça, vous n'attaquez pas directement la maman de vos enfants, vous attaquez carrément, vous écrivez. Et là, c'est ça. Ça peut vous aider à avoir une issue définitive par rapport à la procédure. Si vous ne voulez pas aller sur le champ civil ou le champ pénal. Pour moi, personnellement, je l'aurais fait. J'aurais attaqué sur le plan civil. Même si on me donne des demandes d'intérêt à 20 000 euros, pour être honnête, je peux le remettre à mes enfants pour le compte d'épargne. Vous comprenez, psychologiquement et moralement, vous serez vous dans votre aise. Elle va comprendre que vous ne l'avez pas fait pour la, entre guillemets, michetonner, pour prendre son argent, mais vous l'avez fait pour l'inciter à agir dans le sens de l'équilibre et surtout de l'intérêt des enfants qui vous préoccupent. Cet argument, si vous l'invoquez devant une juridiction, ils ne peuvent pas ne pas vous suivre parce qu'eux-mêmes, ils seraient en tort. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Après, si ça perdure, l'aspect pénal, ça peut être une menace efficace parce que cette personne a commis un acte assez grave. Quand une personne a un droit de garde et que vous amenez les enfants, beaucoup de gens le font. J'ai connu une situation où c'était un couple mixte, un Européen et une Africaine, la fille est partie en Afrique en amenant les enfants comme ça, se disant que oui, je pars au Sénégal, donc le monsieur ne me verra pas. Mais ce monsieur, c'est parce qu'il est européen qu'il n'a pas le droit d'accès à ses enfants. Cette fois-ci, j'étais obligé, moi, de défendre l'européen parce que naturellement, c'était une mesure assez grave de séparer définitivement. Elle va dans son village, on met là-bas des enfants qui n'ont aucun contact avec ce rapport culturellement, qui devraient tout apprendre, qui ont laissé la scolarité, hein, qui parfois tombaient malades, tout ça, alors que leur intérêt était de rester ici dans un cadre familial voilà, équilibré. Si la personne veut partir, la femme a le droit de partir, mais elle ne doit pas partir avec les enfants. L'intérêt des enfants suppose qu'elle reste dans le cadre où ils sont nés, ils sont scolarisés, ils ont leurs droits sociaux. Effectivement, c'est, donc vous, c'est votre cas de figure. Voilà le schéma que je vous propose.
Même dans la situation, on va dire, on est de cultures différentes. Moi, je suis africain. Elle est antillaise. Et là où elle les a amenés, ça n'a rien à voir avec moi. Avec, oui. Voilà, il y a tout ça. Elle est partie en Martinique avec. Et bon.
Et c'est, bon. Pas, c'est pas à côté. La Martinique, même si on est dans le cadre français globalement, ce n'est pas, c'est l'outre-mer. Donc, on comprend bien l'enjeu. Même si vous allez là-bas, vous, pour essayer de vous installer, techniquement, ça peut être très difficile pour vous. Vous pouvez certes trouver un travail, mais sociétalement, vous n'avez pas de repères là-bas.
Voilà.
Les enfants, vous ne les avez pas fait là-bas. Vous les avez fait ici, je suppose. Ils sont nés ici.
Ici, si je devais partir, franchement, ce ne serait pas là-bas. Ce serait en Afrique, quoi, mais pas ici.
Voilà, bien.
Soit en France, ou soit en Afrique.
Voilà, très bien. Donc, je vous conseille en définitive de réfléchir au chemin que je suis en train de vous dire. Écrire quand même à la juridiction pour leur dire que la lenteur de la procédure vous cause un préjudice et vous invoquez surtout l'intérêt supérieur des enfants, le code civil qui leur empêche d'avoir un comportement qui peut être préjudiciable à l'intérêt des enfants, la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant à son article 3 et 1 qui les empêche aussi d'avoir un comportement lent et une procédure lente qui peut causer un préjudice aux enfants. D'autre part, ça c'est d'une part vous pouvez le faire, ça ne va pas causer un tort à la maman, je ne vais pas dire votre conjoint, à la maman de vos enfants. En deuxième lieu, essayer d'attaquer sur le plan civil en dommage d'intérêt, ça va inciter la personne, même si elle est là-bas. La décision sera appliquée automatiquement. Elle va agir. Et en dernier lieu, si ça ne bouge pas, l'aspect pénal, comme je viens de vous le dire, pour enlèvement d'enfants.
Merci beaucoup, Babou. Merci pour votre...
Je vous en prie. Et bon courage. Hein.
Bon courage. Nous allons enchaîner avec Monsieur Diaby. Hein. Je pense qu'il y a une question. Monsieur Diaby, bonjour.
Alors, bonjour, Monsieur Phil.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Diaby.
Ça va, Monsieur Tab.
Bonjour, Monsieur Diaby.
Moi, je voulais vous demander pour vous
parler un peu. Parce que moi, on ne vous entend pas très bien, Monsieur Diaby. Hein.
J'ai marié avec une femme traditionnellement musulmane, voilà. Mais en fait, on vit ensemble, mais elle travaille, mais elle ne voulait rien faire dans la maison.
Elle travaille, mais
elle ne voulait rien faire dans la maison.
D'accord, très bien, d'accord.
Donc, et elle amène son frère et moi en même temps. Et comme moi, il y a un de mes frères qui est venu d'Italie, donc il est chez moi. Donc, du coup, il a appelé son petit frère. Il est venu. Voilà, la situation, ça se dégrade. Parce que là, on a un enfant. Et même l'enfant, là aussi, il a demandé des trucs au CAF. Mais ça m'a empêché, parce que moi, je gagne bien. Donc, du coup, moi, je n'ai jamais demandé rien, quel que soit au CAF. Donc, je vois que la CAF, il a pris plus de 5 mois d'aide. Donc, la CAF a demandé mes papiers. J'ai amené mes papiers. Donc, ils ont coupé le truc. Mais ils m'ont amené un papier pour remboursement. Est-ce que c'est moi qui dois rembourser ou bien c'est elle?
D'accord, c'est ça votre question, hein?
Oui.
Parce que la CAF considère que vous gagnez beaucoup.
Oui.
D'accord. Vous savez, j'allais en venir tout à l'heure. C'est très important parce que quand l'un des parents prend des actes dans l'intérêt des enfants ou bien dans l'exercice de l'autorité parentale des enfants, la caisse d'allocation familiale, ce qu'elle donne, c'est pour les enfants, c'est pour l'intérêt des enfants. Oui. Même si on donne ça à votre conjoint, vous, vous devrez être diligent pour savoir ce qui se passe. L'argent, vous saviez que ça entrait dans un compte. Ça entrait dans quel compte? Votre compte ou le compte de votre conjoint?
En fait, il a mis pour l'allocation, allocation, aide-location. Donc, du coup, moi, c'est mon...
Ma question est de savoir, monsieur, l'argent qui encaissait l'argent des allocations, vous ou elle?
Non, c'est ni moi. Bon, elle a encaissé pour l'enfant, mais pour location, c'est l'immobilier même qui encaisse.
Directement. Mais le contrat de bail est signé par qui?
Par moi.
D'accord, très bien. Ok, donc votre question, ça concerne les allocations familiales ou bien l'APL, l'allocation le logement?
L'APL.
Et on vous demande maintenant de rembourser?
Oui.
Et vous demandez, est-ce que c'est vous ou bien c'est votre conjoint?
Non, parce que que la lettre est venue à mon nom. Moi, parce que j'ai parti là-bas mois de janvier pour demander si j'ai prime d'emploi. Donc, comme je n'ai pas assez, là, moi-même, j'ai déjà découvert qu'il y a un compte. La dame me demande que vous avez un compte ici avec votre épouse. Moi, je dis non, je n'ai pas aucun compte à CAF. Rien du tout au CAF.
D'accord. Maintenant, il faut que je vous dise la solution pour la vie. Je comprends, mais il faut que vous me disiez, oui. Est-ce que le remboursement qu'on vous demande a un rapport avec les allocations touchées pour vos enfants ou bien a un rapport avec l'allocation pour le logement?
Pour le logement.
Si c'est pour le logement et que c'est votre bail, c'est vous qui devez prendre en charge votre logement. Et effectivement, ils vont tenir compte du fait que vous avez ou pas des moyens suffisants. Si vous avez beaucoup de moyens, l'argent, que ça passe par vous directement, vous payez à votre bailleur, que ce soit encaissé par votre bailleur, c'est pour vous. Vous comprenez? Et si effectivement ils font la balance, ils voient que d'après les règles de la caisse, vous n'êtes pas éligible, vous devez rembourser le supplément qu'ils vous demandent. Vous devez le rembourser. Sauf à démontrer que vous avez d'autres charges. Vous pouvez maintenant jouer sur ça. En répondant à un courrier, essayez de démontrer, montrant carrément votre bilan, vos charges. Vous pouvez jouer sur ça. Ils sont ouverts. Ils veulent juste que vous soyez traçable et que vous soyez honnête. Si vous démontrez qu'il y a d'autres charges qui impactent les dépenses de votre foyer, effectivement, ils peuvent revenir sur ça. Ils peuvent même vous faire un dégrèvement ou bien abandonner carrément cette poursuite en vue du remboursement. Si c'était maintenant, ou bien si un jour ça concernait les allocations et que c'est encaissé par votre conjoint, pareil, on va considérer que c'est dans l'intérêt du couple. C'est tous les deux qui doivent rembourser cela. Et ils ont le droit de saisir la personne qui est la plus solvable. Si c'est vous êtes solvable et que la femme n'est pas solvable, ce sera vous. Exact. Si c'est tous les deux, vous êtes solvable et que vous, on vous a demandé de le rembourser ou bien on vous a poursuivi à travers ce qu'on appelle un ATD, hein, ça veut dire qu'on saisit votre compte directement, avis à tiers détenteur, parce que les institutions peuvent saisir directement votre compte quand vous avez une dette publique. Et là, effectivement, à part le minimum pour vivre, ils peuvent saisir votre compte. Et si ça arrivait, vous avez ce qu'on appelle une action récursoire. L'action récursoire, ça veut dire que vous pouvez vous retourner contre votre conjoint pour lui demander si vous le souhaitez, si c'est nécessaire, de vous rembourser la partie qui vous est de droit, au moins de moitié. D'accord? Donc, c'est à ce plan-là qu'il faut jouer. Mais si c'est l'APL, dites-vous que vous devez le rembourser si vous gagnez beaucoup. Et même essayer de le rembourser parce que ça peut aller au-delà, ça peut aller avec du pénal.
Ouais.
Si on considère que vous avez fait carrément une dissimulation de revenus, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas que du remboursement. Ça peut aller au-delà. On peut vous poursuivre pour autre chose. D'accord?
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Diaby, pour votre appel. On va enchaîner avec Fatoumata. Je suis séparé avec le père de ma fille, qui vient d'avoir 18 ans. Est-ce que je dois toujours réclamer la pension alimentaire? C'est bien cela, Fatoumata?
Oui, c'est bien cela. Bonjour.
Bonjour, Fatoumata.
Bonjour,
monsieur Tal, Aliou Tal, oui.
Aliou
Tal. D'ailleurs, vous me permettez de dire mon nom parce que j'ai vu aussi, jusqu'à présent, on m'appelle Ayuta, on me confond Ayuta. À d'autres, maître Mamadou Tal, maître Abdoulaye Tal, pour me chercher.
Non,
moi.
Aliou, non,
Aliou, merci. Non, j'en profite pour vous, pour dire aux autres, c'est pas pour vous, avant de vous laisser poser la question, que moi je m'appelle Aliou, mon prénom c'est A-L-I-O-U. Mon nom de famille.
Mon fils s'appelle pareil.
Voilà, mon nom de famille c'est T-A-2-L, pour les gens qui me confondent. Oui. Parfait, alors madame Fatoumata, dites-nous.
Alors, en fait, moi, ma question est de savoir, je suis assistante sociale, mais
vous connaissez la question.
Droit commun.
Ouais.
Je suis dans le droit commun, mais je pose quand même la question. Mm-hmm. Et ça me permet aussi de parler à Lutal, que je n'arrive pas à joindre.
Donc voilà, vous m'avez au téléphone, c'est bien, vous m'avez en direct, là, c'est mis encore.
Voilà, donc juste pour savoir, ma fille vient d'avoir 18 ans, elle vivait au Mali, bon, là-bas, il y avait pas de pension alimentaire, je l'ai fait venir par le regroupement familial. Mmh. Et maintenant, je l'avais depuis il y a 3 ans maintenant, elle est scolarisée. Là, en ce moment, elle passe son bac première, première partie. Voilà, donc elle est dans un cursus scolaire normal. Mmh. Et comme elle vient d'avoir 18 ans, est-ce que toujours le père doit me verser la pension alimentaire qui est négociée à l'amiable, hein, parce que je voulais enclencher des démarches et tout ça. Il m'a supplié de faire ça à l'amiable. Je l'ai fait à l'amiable. Maintenant, à 18 ans, est-ce que ça s'arrête ou
très bien.
C'est toujours... voilà.
Impeccable. Donc, assistante sociale, j'espère que je vous ai attaqué tout à l'heure parce qu'il y a des assistantes qui incitent les gens à divorcer. Vous n'en faites pas partie.
Mais non.
Sinon, je ne réponds pas à vos questions.
Moi, je suis au côté de la loi et la justice.
Ah, d'accord. Donc, c'est très bien. Vous comprenez pourquoi voilà, je dis ça, parce que l'intérêt du couple, vous êtes d'accord avec moi, quand on veut conseiller des gens, d'abord il faut essayer de sauver ce qui est sauvable. Hein.
J'ai beaucoup d'amis hommes, je ne suis pas féministe, mais je défends tout le monde.
Effectivement, là on est en phase, d'accord, très bien.
Voilà.
Effectivement. Donc, d'ailleurs, on va faire une émission sur les assistants sociaux et parfois même votre responsabilité pénale, parce que parfois, quand on incite les gens à divorcer, quand on incite les gens à faire du mal, ça peut engager la responsabilité de l'assistante sociale. Il y en a vraiment, vous avez un rôle très important. Mais parfois, il y a des gens qui sont vraiment dans le féminisme à outrance qui
et
n'est pas du tout
opportun.
Et on peut
avoir des drames. Ça peut être dramatique.
Et ça peut créer des drames au niveau humain, même pour les enfants, comme vous l'avez compris.
Les traumatismes importants.
Très bien. Maintenant,
si vous permettez juste de rebondir sur ça avant.
Nous n'avons pas beaucoup de temps, Fatoumata.
Il n'y a pas de souci. Bon, je m'appellerai là.
On reviendra sur la question.
On va revenir sur la question et on vous prendra carrément exprès pour avoir au moins une assistante qui nous dira son point de vue sur ces questions-là. Parce que vous êtes au parfum de ces questions. Nous, on est juristes, mais vous le vivez au quotidien. Il y a des éléments que vous maîtrisez plus que nous-mêmes. D'accord?
Voilà.
Maintenant, pour répondre à l'élément juridique, la majorité de l'enfant n'entraîne pas un arrêt de l'obligation de pension alimentaire. Tout le monde doit le savoir. Les gens pensent que dès que les enfants sont majeurs, ça arrête. Si l'enfant est majeur et que l'enfant n'a pas les possibilités de pourvoir lui-même à ses besoins, l'obligation d'entretien des enfants qui incombe aux deux parents, qui est aussi le revers de l'autorité parentale, ça veut dire on vous donne la possibilité d'entretenir, d'exercer l'autorité sur les parents, mais l'article 371-2 du Code civil dit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Vous comprenez, il y a trois éléments ici. D'accord. Il faut voir les ressources de l'autre parent, vos ressources, et aussi des besoins de l'enfant. Si l'enfant majeur travaille, par exemple, et livreur, c'est Uber Eats ou bien c'est McDonald's, si l'enfant a des moyens et que finalement ce n'est pas nécessaire, le parent peut demander à ce qu'il ne soit plus obligé de le payer. Mais si l'enfant en a besoin, l'obligation continue. Ça, c'est de un.
D'accord.
Mais néanmoins aussi, ce parent peut demander à verser directement à l'enfant et non pas à vous, à partir du moment où il a 18 ans, la pension alimentaire. Mieux encore, ce parent peut demander à ce que cette pension soit versée en nature. Je lui donne un logement, j'ai une chambre de bonne quelque part, il est étudiant. Ça peut suffire à assurer donc cette obligation d'entretien de l'enfant. Donc, en définitive, pour répondre à votre question, la majorité n'entraîne pas un arrêt automatique. Au contraire, ça continue si l'enfant en a besoin. Et pour maintenant faire la dévolution de la participation de chaque parent, ce sera une balance entre vos moyens. Et aussi une balance après vos moyens. Vous savez, il a 30, l'autre a 10. Effectivement, donc chacun va donner donc, en fonction de ses revenus et en fonction maintenant des besoins de l'enfant. On est d'accord?
D'accord.
Voilà, donc voilà la réponse à ces questions. On reviendra avec vous nous laissez vos contacts ou bien vous nous envoyez un SMS tout à l'heure sur le numéro. Vous mettez assistante sociale. Mettez cette fois-ci assistante sociale.
Voilà, vous mettez Fatoumata, assistante sociale.
Merci beaucoup.
Très clair,
net
la réponse.
Merci, je vous en prie, merci beaucoup.
Bonne journée.
Voilà, merci, bonne journée. Plus qu'une minute. Alors, est-ce que on devrait revenir sur le sujet la semaine prochaine, à l'UTAL?
Oui, parce qu'on n'a pas fini. On va donner toujours des éléments de droit pour aider nos auditeurs, mais aussi recueillir leurs témoignages et juguler ça avec les moyens de droit.
Important.
Et donc, effectivement, on peut y revenir la semaine prochaine. Déjà, comme je disais à Fatoumata, effectivement, c'est très important. C'est une question importante. Je voulais y revenir que la majorité ne vous délivre pas de votre obligation d'entretenir un enfant. Parce qu'on peut penser que comme ici, on est en France, quand on est majeur, les enfants sont responsables. Parfois même, les enfants peuvent être responsables avant leur majorité. Mais si l'enfant en a besoin, il faut garder en tête que vous devez continuer de l'entretenir en fonction de vos moyens, des moyens de l'autre parent et des moyens de votre enfant.
Voilà.
Ça, c'est très important. Et toujours pour rester sur cet élément-là, un dernier élément, avant, on va y revenir la semaine prochaine, sur ça et sur les causes du divorce.
Ouais. On peut y revenir. Sur la pension alimentaire aussi.
Sur la pension alimentaire, comme elle vient de soulever cette question, on va revenir sur ça. Mais il y a des éléments qu'on va donner aussi sur le droit de garde, le droit de visite. C'est très important.
Ouais.
Comment jongler tout cela pour que chaque parent y trouve son compte. Et que parfois même, si les parents ne jouent pas le jeu, le juge peut décider une tierce personne qui va s'occuper de votre enfant. Ça peut être un organisme. Quand on dit que l'enfant est placé, ça peut être assez délicat. Donc, notre objectif, pour nous, c'est que si vous voulez divorcer, vous le faites sans pourtant vous entretuer.
Merci à Lutel.
Merci Phil.
Le droit est nous, dans la grande matinale avec Phil Le Montagnard, sur Africa numéro 1.